Eh bien, il y a pas mal de. Le petit reste est assez important. Nous sommes comme les exilés de Nabucodonosor. On va parler un peu. Ce soir, on va parler de guerre. Ça nous changera. On va parler de guerre quand même parce qu'on est dans un contexte de guerre. Voilà. Et dans le contexte de guerre, évidemment, on parle de paix et de conditions de paix. Donc on va pouvoir aborder tout cela ensemble. Je reprends très rapidement. Alors pour ceux qui ne sont jamais venus, je crois qu'il y en a quelques-uns. Donc Marc Pernaut, Oratoire du Louvre, Hervé Giraud, Saint-Eustache, j'allais dire Oratoire de France,
Mais aussi, oui.
aussi, double casquette. Donc nous nous retrouvons pour la deuxième année consécutive. Ce soir, pour lire ensemble le premier chapitre du livre de Jérémie. Mais ce n'est que, j'allais dire, ce n'est que le centre de notre travail de cette année autour de guerre et paix dans la Bible. Nous avions commencé ici même avec un chapitre très difficile et fondamental. La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Le fameux meurtre Caïn et Abel, originel. Et puis, nous étions retrouvés le 11 novembre à l'Oratoire du Louvre pour aimer nos ennemis avec Matthieu. En décembre, le loup et l'agneau vivront ensemble, nous disait Isaïe. Pour celles et ceux qui ont pu regarder la télévision à la fin de la semaine de l'unité, vous avez pu en apercevoir quelques petits extraits dans le reportage de France 2, dans cette émission conjointe, et dont je peux faire la publicité puisque j'apprends ce soir en scoop que vous pouvez la visionner sur le site internet de l'Oratoire du Louvre. Alors, rassurez-vous, très gracieusement, l'Oratoire du Louvre consent à ce que le site internet de Saint-Eustache puisse copier le film à partir. Voilà. Donc, il y a un petit film de 5 minutes.
Que j'ai moi-même piraté à la sueur de mon front sur
Voilà.
le site de France 2.
Alors, ce sont nos frères protestants qui ont piraté, mais les catholiques se rallient à cette piraterie en se disant qu'après tout,
on avait bien donné.
on a bien donné, à tout travail mérite salaire, nous avons le droit
De prendre notre petit bout de film.
de prendre ce film qui nous appartient en partie, après tout. Donc voilà, un petit film. Entre-temps, nous nous sommes retrouvés au début de l'année à l'Oratoire du Louvre, et là, nous étions dans un texte absolument scabreux. Puisque nous étions dans l'Apocalypse et au cavalier il fut donné d'enlever la paix de la terre. Donc c'était, je me souviens bien, il ne faisait pas chaud non plus d'ailleurs. On se revoit toujours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'on a choisi le terme guerre et paix, chaque fois qu'on se retrouve, c'est un cataclysme. La première fois, j'ai cru que cette salle qui doit prendre l'eau une fois par siècle était quasiment submergée par les flots. Une autre fois, enfin bref, la tempête, la grêle va certainement fouetter nos fenêtres, mais nous résistons. Nous résistons. Et donc ce soir, nous allons voir la branche de l'amandier. Ça fait plaisir ce soir, hein. C'est une espérance qui nous réchauffe le cœur.
Alors bonsoir à chacun d'entre vous. Alors c'est vrai que ces récits de vocation, moi j'aime beaucoup ces récits de vocation, car quelque part, bien sûr, il y a, bon, quand on entre dans ces grands prophètes, finalement, il y a un fond historique certain. Mais si c'est dans la Bible, c'est pas pour l'intérêt historique bon, je dirais de ce qui est arrivé, mais c'est avant tout une prédication. Et donc cette vocation de Jérémie, elle parle de notre vocation de prophète, car effectivement, à l'époque de l'Ancien Testament, si je puis dire, il y avait des prophètes professionnels, c'est-à-dire qu'il y avait des hommes qui n'étaient pas du tout faits pour être prophètes en général et qui se retrouvaient devenir prophètes par la vocation, c'est-à-dire par un appel de Dieu. Dans le Nouveau Testament, je veux dire, nous sommes dans une ère nouvelle, l'ère du Messie, et c'est d'ailleurs ce que prophétisent Ésaïe et Jérémie aussi d'ailleurs, c'est que finalement nous serons tous prophètes. Voilà. Et c'est cela qui se réalise en Jésus-Christ. On le voit dans la promesse de l'Esprit qui est donnée, par exemple, surtout d'ailleurs dans l'évangile, la fin de l'évangile selon Jean. Et c'est ce que l'on voit dans les Actes des Apôtres, où il dit « Vos enfants, vos fils, vos filles seront prophètes ». C'est bien cela l'annonce de l'ère messianique du Messie. Donc cette vocation du prophète Jérémie, c'est notre vocation finalement. Hein, c'est, je crois que ça peut être entendu comme ça. Et du coup, je crois qu'il y a là, pas seulement une anecdote, mais il y a quelque chose dans lequel on peut se sentir concerné au premier degré, pour peut-être pour se lever, pour voir et pour témoigner, pour parler, pour agir. Et puis peut-être aussi, bon, on peut toujours tourner ces textes dans les différents sens, c'est-à-dire que nous sommes Jérémie, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, on est peut-être aussi Dieu lui-même, c'est-à-dire qu'il peut être, si je puis dire, mais celui qui va dire à un autre... tu es prophète, Dieu a un amour pour toi, Dieu t'appelle à entendre une vocation. Enfin bref, on peut être le vecteur de cet appel de Dieu qui fait que l'autre va reconnaître sa vocation aussi. Donc ce texte, on peut se retrouver dedans à différents niveaux, je crois que c'est ce que nous allons pouvoir voir. Et bon, je ne sais pas si notre époque est si mauvaise que ça. En fait, moi je ne crois pas, mais vous allez me dire que je suis un irréductible optimiste, ce qui est vrai. Mais je ne trouve pas que notre époque soit si terrible que ça, aussi mauvaise, tout va mal, machin. Ne serait-ce que quand on regarde les informations, ils nous disent « catastrophe, il a neigé ». Bon, je veux dire, on est en février. Donc, ils veulent nous affoler, voilà. Bon, alors mettons que tout aille mal, mais ces textes, c'est pour ça qu'on a mis la branche d'amandier. Oui, d'accord, il y a des chaudrons bouillonnants partout, ok. Il y a aussi des branches d'amandier. Et nous sommes appelés pour proclamer le salut de l'Éternel. Et donc c'est pour ça aussi que l'on voulait lire cette page, pour que nous devenions des prophètes, je dirais, optimistes, mais quand même lucides.
Alors, avant de lire, comme nous en avons pris l'habitude, avant de lire une des traductions de ce texte, une traduction très contemporaine, toujours issue de la nouvelle traduction de la Bible aux éditions Bayard, avant de lire quand même un petit rappel historique, parce que malgré tout, comme toujours, nos textes sont tout à fait universels et actualisés, mais il faut quand même se rendre compte à quel point, justement, ce texte a pu être rédigé, même s'il ne l'est pas de manière définitive. Vous savez que les plus récents travaux semblent nous montrer que la plupart des textes de l'Ancien Testament ont été remaniés à tout le moins et achevés après l'exil. Ce texte-là évoque en tout cas l'un des moments les plus noirs de l'histoire de Juda. Et on verra qu'il est question souvent de la marmite bouillonnante qui vient du nord. Il y a un couloir nord-sud dans lequel se trouve embringué, si j'ose dire, le pays d'Israël, et les invasions ne cessent entre l'Égypte qui est au sud et les pays assyriens et les autres de se trouver dans un couloir militaire en quelque sorte, et ce qui expliquerait d'ailleurs beaucoup de choses dans les affaires du Proche-Orient d'aujourd'hui, c'est que le petit pays qui se trouve en plein milieu est très mal situé dans les couloirs commerciaux et autres, et donc convoité par les grands empires. Et à l'époque, bien sûr, il y a un empire qui prend le dessus, c'est l'empire babylonien. Et vous savez que dans la Bible, Babylone n'est pas assimilée à beaucoup de bons. On retrouve cette racine dans Babel. Et lorsque l'on parle de Babylone, c'est plutôt pour évoquer les forces du mal. Et c'est précisément le cas lorsque un certain roi Nabuchodonosor, qui est resté illustre, et pas seulement pour les bouteilles de vin qu'il nous a permis de produire, Nabuchodonosor a décidé de punir ce petit pays pour ses mauvaises alliances. Il a commencé d'abord par barrer la route aux Égyptiens à la bataille de Megiddo. ça c'est une des grandes dates de l'histoire, c'est 609. Et il faut voir que nous sommes là chez les prophètes du 7e siècle, avec Jérémie notamment, qui est contemporain de tous ces événements, et Ézéchiel. Ézéchiel, lui, sera un des prêtres exilés. Donc vous voyez, pour que vous vous remettiez un petit peu l'histoire d'Israël, Ézéchiel et Jérémie quasi contemporains, Jérémie le précédant un petit peu, Jérémie a prêché entre 626 et 587, c'est-à-dire précisément au moment même de ces destructions, puisque la grande destruction du temple, le grand temple de Jérusalem, date de 587, et la première déportation de 597. Donc, au tout début de ce 6e siècle, ces événements funestes. Or, ces événements funestes sont lus par le peuple d'Israël et analysés comme irrémédiables à cause de l'impiété d'Israël. Et on retrouve tous ces thèmes. C'est toujours l'Éternel qui intervient et qui, d'une certaine façon, punit tous ceux qui ont mal agi, et qui, d'une certaine façon, donne la paix par ses serviteurs, que sont les prophètes, et tous ceux qui annoncent le moyen de retrouver la route du Seigneur. Donc, en tout cas, on retrouve tout à fait le rôle du prophète, et on retrouve tout le contexte de ces sombres prophéties d'avant l'exil et de l'exil. Alors maintenant, on va pouvoir se plonger directement dans ce texte que Chantal va nous lire.
Je commence là.
Tout à fait.
Le premier chapitre.
Jusque là. Je crois. Oui, c'est ça.
Parole de Jérémie, fils d'Ilkiyak, des prêtres d'Anatote, au pays de Benjamin, à qui vient la parole de Yahweh au jour de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, dans la 13e année de son règne. Et ce fut au jour de Yoyakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au 5e mois. Vient à moi la parole de Yahweh disant « Avant que je te forme dans le ventre, déjà je te connais. Avant que tu sortes des entrailles, déjà je te mets à part et je te fais prophète pour les nations. » Et j'ai dit « Mais Yahvé, mon Seigneur, je ne sais pas parler, je ne suis pas en âge. » Et Yahweh me dit « Ne dis pas « je ne suis pas en âge » parce que partout où je t'envoie, tu iras. Tout ce que je te commanderai, tu le diras. Ne les crains pas, parce que je suis avec toi pour te délivrer. » Sentence de Yahweh. Alors Yahweh avance sa main et me touche la bouche. Et Yahweh me dit, « Ainsi j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis ce jour sur les nations et les royaumes, pour arracher et pour démolir, pour détruire et pour briser, pour bâtir et pour planter. Vient à moi la parole de Yahweh disant, « Jérémie, que vois-tu ? » Et je dis, « Je vois la branche de l'amandier. » Et Yahweh dit ainsi, « Tu vois bien, parce que je veille sur ma parole, et ainsi elle agit. » Vient la parole de Yahweh à moi une nouvelle fois, disant, « Que vois-tu ? » Et je dis, « Du côté du nord, une marmite bouillante à la gueule qui s'ouvre. » Et Yahweh dit ainsi, « Du côté du nord s'ouvre le malheur sur tous les habitants de ce pays. Et moi, j'en appelle à toutes les familles des royaumes du Nord, sentence de Yahweh. Qu'ils viennent, que chacun établisse son trône aux portes de Jérusalem et contre tous les murs et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai jugement sur eux pour tout ce qu'ils ont fait, car ils m'ont abandonné. Ils ont brûlé de l'encens pour les autres dieux. Ils se sont prosternés devant l'œuvre de leurs mains. Et toi, tu vas ceindre tes reins. Tu te lèveras, tu leur diras tout ce que je t'aurai commandé. Et pas de peur devant eux, ou c'est toi que je brise. Et voici qu'aujourd'hui je fais de toi ville fortifiée. Je te fais colonne de fer et muraille de bronze sur tout ce pays, contre les rois et les chefs de Juda, contre ses prêtres et contre le peuple de ce pays. Ils pourront bien te combattre. Contre toi, ils ne l'emporteront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Sentence de Yahweh.
Un grand merci pour cette lecture, toujours. Alors ça commence, on commence la lecture comme on le fait souvent, un peu à la vitesse du pas du chameau. Ce texte donc du premier livre, le premier chapitre de Jérémie. Parole de Jérémie, donc parole au pluriel. Alors qu'au verset 2, il y a marqué « La parole de l'Éternel me fut adressée ». Donc, moi, la première réflexion qui me venait, c'est que ce livre, c'est pas la parole de Dieu, ce sont les paroles de Jérémie, finalement. Alors, cette distinction, je crois que c'est une distinction qui est quand même fondamentale. La Bible n'est pas parole de Dieu, en fait. Enfin, on est tous d'accord là-dessus. C'est-à-dire que c'est un abus de langage. C'est pas sans rapport avec la parole de Dieu. On le voit ici. C'est-à-dire que ce sont des paroles d'hommes inspirées par Dieu. Mais il y a quand même une nuance, parce que, si vous voulez, on le sait bien, d'ailleurs, avec ces paroles... Bon, je vais regarder le film Invictus. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Mandela. Alors, on peut le dire. Je peux le dire d'autant mieux que c'était, finalement, des théologiens un peu protestants qui ont justifié l'apartheid sur la base de textes de la Bible. Donc, avec des textes de la Bible, on le sait bien, on peut faire des horreurs. À ce moment-là, ce n'est pas la parole de Dieu qui a fait des horreurs. C'est une interprétation mauvaise de textes et de paroles humaines. Mais par contre, il peut y avoir une lecture de ces textes, c'est ce que nous faisons, bien sûr, en tout cas, c'est ce que nous essayons de faire. Il y a une lecture de ces textes qui nous permet de nous ouvrir à la parole que Dieu a pour nous-mêmes. D'ailleurs, on le voit, la parole de l'Éternel, elle fut adressée donc à Jérémie, à un homme, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année. Donc, c'est une parole, si vous voulez, qui est adressée à un homme à un moment donné de l'histoire. Et elle a un effet, cette parole. On le voit d'ailleurs dans ce texte. Ce n'est pas tellement une parole qu'on entend, c'est une parole que l'on mange avec la bouche, une parole que l'on voit avec les yeux. Ça paraît un peu bizarre. C'est une parole qui s'approche de Jérémie, on va le voir. Donc, c'est une parole... Si vous voulez, en fait, c'est Dieu lui-même, si je puis dire, qui, on va le voir dans ce texte, qui a un acte de création pour Jérémie et qui rend Jérémie capable, ensuite, de paroles prophétiques qui vont pouvoir avoir un effet, finalement. Un effet de création dans le monde, un effet de nouveauté, un effet de salut, peut-être aussi, ou un effet de destruction, dans un certain sens, de mauvaises choses. Donc je crois que cette distinction d'abord entre les paroles de Jérémie qui rendent compte de la parole que l'Éternel, j'allais dire, lui a donnée, mais ce n'est même pas tout à fait ça, que la parole par laquelle l'Éternel a créé un peu Jérémie. Voilà. Donc je crois que cette distinction, elle est déjà importante pour nous ouvrir. Alors même si on n'entend pas la parole de Dieu, c'est-à-dire que, à part Jeanne d'Arc, qui a entendu Bout les Anglois hors de France, moi personnellement, j'ai jamais entendu une voix, mais peut-être. Saint-Paul à Damas, mais c'est une expérience spirituelle, si vous voulez, c'est une voix, c'est une lumière, c'est une force, c'est une expérience mystique, dont il rend compte, là aussi, avec des paroles. Mais on avait vu ensemble, hein, l'année dernière, c'est quand même une expérience difficile, parce qu'à rendre compte, il y a des gens qui entendent la parole, qui ne voient pas la lumière, d'autres qui voient la lumière, qui n'entendent pas la parole. Donc tout ça, si vous voulez, c'est difficile d'en rendre compte. C'est en même temps la présence du ressuscité, en même temps, c'est... Voilà, si vous voulez, donc c'est...
Oui, on rentre là dans un débat tout à fait intéressant, et je crois qu'en effet, il est très important de s'arrêter sur ces paroles et sur la parole de l'Éternel. Finalement, on sait aujourd'hui, par des travaux exégétiques poussés, historiques, archéologiques et autres, que, bien entendu, ces écrits ne datent pas exactement de ces périodes dont il s'agit. Et l'on retrouve un peu le même décalage entre les paroles de Jésus et celles qui lui sont prêtées par nos évangélistes. Et la conclusion parfois, enfin même carrément hâtive, vers laquelle vont certains, est de dire « Ah, mais si ça n'est pas vrai, c'est donc que c'est faux. » Et donc, la Bible ne dit pas vrai. Et donc, qu'est-ce qu'on s'embête à la lire ? Eh bien, c'est pas comme ça que ça marche. Précisément pour deux raisons. Il y a l'auteur ou les auteurs bibliques. Il y a l'inspiration. Il y a le temps de la rédaction. Et il y a le temps de la lecture et de la réception. Or, ces paroles sont vraies dans la mesure où nous les recevons vraiment ce soir. Et au fond, d'aller savoir si elles ont bien été écrites la 13e année du temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, effectivement, n'est pas l'essentiel. Et on retrouve la même chose, à peu de choses près, dans les ipsima verba, les vraies paroles de Jésus. Alors, Jésus a dit, et alors, Jésus a dit, et puis parfois... Mais comment Jésus a-t-il pu dire certaines choses, etc. Et on finit par ne plus savoir ce qui est parole d'évangile et ce qui ne l'est pas. Au fond, ce qui compte, c'est la réception du croyant que nous sommes, la réception et l'actualisation que nous en faisons. C'est-à-dire que ces paroles sont d'autant plus vraies qu'elles sont toujours aussi actuelles. Et c'est un peu le sens de nos réunions comme ce soir. C'est précisément d'en vérifier la vérité par leur validité. Et au fond, on ne saura jamais si Jérémie était roux, avait des yeux bleus ou déjeunait à 15 heures, mais au fond, on s'en fiche bien pas mal. Ce qui importe, c'est qu'à partir d'une situation décrite par un homme jeune, apparemment, qui a été inspiré par l'Éternel, un certain nombre de ses paroles à lui, paroles d'homme, ont eu une importance dans la vie des hommes de son temps, et de ceux qui l'ont relaté, et de ceux qui l'ont prié, et de ceux qui l'ont reçu. Et voilà pourquoi, ce soir, ces paroles ont presque autant d'importance qu'au temps de l'exil. Et voilà pourquoi, sans doute, plusieurs générations ont reçu et ont peut-être remanié ou repris des propres paroles de cet homme-là qui a eu quand même la prudence de se situer dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut tout de même savoir qu'il y a eu un homme qui s'appelait Jérémie, ça c'est certain, et qui vivait à ce temps-là et qui a connu des épreuves et dont on peut suivre plus ou moins, même si on ne sait pas très bien ni comment il est né ni comment il est mort, et au fond... Est-ce si important ? Ce qu'on sait, c'est qu'il a marqué son temps et qu'il y a eu une opposition entre cet homme qui a souffert, les fameuses Jérémiades, qui a souffert un certain nombre d'épreuves, qui a été emprisonné. Ça nous rappelle beaucoup de grands personnages que nous connaissons mieux, Mais au fond, notre ami Paul se revendique directement de la filiation d'un Jérémie ou d'un Isaïe, on le verra un peu plus tard d'ailleurs, notamment dans sa lettre aux Galates. Pourquoi ? Parce que quand Paul lit Jérémie, c'est sa vie qu'il relie à travers la vie de Jérémie, telle qu'il apparaît dans le livre de Jérémie. Quand Paul lit Isaïe, c'est sa vie qu'il revit, etc. Et voilà pourquoi quand Paul reprend Isaïe ou Jérémie, c'est sa situation qu'il analyse, et voilà pourquoi quand nous la lisons, elle nous parle tant. Et au fond, on revit ça concrètement à travers les écrits d'un prophète.
Alors sinon, il y a quand même quelque chose quand on nous dit qu'il est l'un des sacrificateurs, donc fils de Ilkija, je ne sais pas comment se prononce, fils d'un sacrificateur d'Anatote. Ça paraît une petite anecdote comme ça en passant. En fait, c'est quand même assez grave parce que cette famille de prêtres, elle a été maudite, exilée au temps de Salomon, en fait. Et donc, c'était des prêtres, vraiment, c'était très mal vu, en fait. C'était des prêtres félons, quoi, finalement. Et donc, on pourrait dire que ça aussi, ça peut nous dire, voilà, on peut être du clan de ceux qui sont exilés, qui sont étiquetés comme mauvais, comme ne pouvant pas être de bons prophètes, de bons prêtres, comme étant, voilà, de mauvaise naissance. Eh bien, ça ne fait rien. Ça nous appelle aussi à la bienveillance, parce qu'il y a des coupables. Vous voyez, s'ils avaient coupé la tête de ces prêtres, je dirais, qui ont trahi, le problème, c'est qu'il n'y aurait pas eu de Jérémie, si vous voulez. Donc, quelque part, il y a cette espérance, ce retournement, cet appel à la bienveillance et à la confiance, à travers ce simple petit mot qui était l'un des sacrificateurs d'Anatote dans le pays de Benjamin. Donc ça, pour les gens de l'époque, c'était clair, c'était le camp des mauvais. Et bien là, issu de ce camp des mauvais, il va y avoir le prophète, un grand, grand prophète, qui va donc être l'envoyé de Dieu. Alors, comment est-ce que ça se passe? Alors, je vous disais, le début du verset 2, la parole de l'Éternel lui fut adressée, c'est ça qui est marqué, mais en fait, il n'y a pas marqué « lui fut adressée », il y a marqué que la parole, en fait, elle vint vers lui, finalement. Donc, vous voyez, il y a une sorte de personnalisation de la parole, et ça, moi, ça me rappelle, si vous voulez, que la parole de l'Éternel, en fait, elle est mouvement vers nous. Ça nous rappelle furieusement, si je puis dire, l'Évangile. On nous dit que le royaume s'est approché. Le royaume s'est approché. On est donc dans, voilà, quelque chose qui vient à nous, quelque chose de, comment dire, comme un souffle nouveau, comme une nouvelle capacité, comme une nouvelle clairvoyance, comme une nouvelle motivation. Alors, je crois qu'il y a là, dans cette idée que Dieu vient vers nous aussi, comme une parole. Alors, je vous disais, je ne crois pas que Dieu parle avec des sons comme ça, si vous voulez. Mais quand on dit que Dieu, il arrive vers nous comme une parole, moi je trouve que ça nous dit qu'il vient comme une proposition finalement. Voilà, c'est une parole, c'est quelque chose qui donne du sens, qui appelle, qui propose. Et puis une parole, on peut ne pas l'entendre, on peut ne pas être d'accord, on peut faire le contraire. Et donc il y a cette idée, voilà, d'un Dieu qui en même temps fait irruption dans l'histoire, oui, va changer les choses. Avec ça a commencé par Vayehi, c'est un des marqueurs dans le texte hébreu pour dire, bon ben maintenant, Dieu dit, bon, finis de rigoler, Vayehi, ça veut dire, ça va changer. Voilà. Et Dieu, il agit, il arrive, il fait quelque chose, il change le cours, ça, la logique, souvent une mauvaise logique, la logique va être changée. Voilà. C'est comme une boule de billard qui arrive, qui fait choc et qui change la trajectoire. Donc la parole de Dieu fait choc dans l'histoire, mais c'est pas un choc violent, c'est un choc comme une parole qui laisse une liberté finalement. Je voulais dire ça parce qu'on va voir dans la suite, voilà, on a l'impression au verset 5 que tout est programmé d'avance, quoi. Voilà. Non, c'est pas programmé d'avance. Dieu a bien une idée derrière la tête, si je puis dire. Bon, heureusement pour nous, mais ça vient comme une parole, comme quelque chose qui est proposé, pas comme un acte violent, quoi, finalement, non ?
Oui, il y a également l'idée, quand même, lorsque tu dis Lorsque tu dis la parole que tu ne crois pas beaucoup, moi je vais défendre un peu Jeanne d'Arc, hein, je suis là pour ça. Je crois quand même, je vais être un peu plus audacieux, je crois que l'Éternel parle à travers des signes. Je veux dire qu'en effet, ce n'est pas deux points, ouvrez les guillemets, mais cependant, il y a deux choses qui... Bon, évidemment, c'est la personne du Christ hein, qui est la parole... incarnée, la parole de chair qui vient vraiment hein, et que nous rencontrons à travers un certain nombre d'événements qui sont souvent d'ailleurs très difficiles à décrire, mais qu'on peut parfois mettre en mots. Et je pense à ça parce que, au fond, il y a certaines paroles qui nous parlent. Soit les paroles de l'Écriture qui s'adressent à nous. Vous savez, c'est un peu le j'ouvre au hasard et je lis un verset, et ce verset, c'est celui qui me parle dans la situation dans laquelle je me trouve, chose extrêmement périlleuse, justement, et donc qui passe par des médiations, qui exigent donc un discernement qui ne soit pas fait de moi-même à moi-même, c'est entendu. Il y a aussi les rencontres de personnes. Les homélies, les commentaires, les groupes bibliques ou je ne sais quoi, où une parole sera prononcée, une parole humaine, qui précisément vous touchera au cœur. Et moi, j'ai tendance à considérer que Dieu parle à travers ces situations. Alors je ne sais pas comment.
Ça je suis hyper d'accord.
Alors je vais jusqu'à admettre que pour Jeanne d'Arc il y a carrément
une voix.
Bon, pourquoi pas.
Donc Dieu fait des ondes.
Ouais, pourquoi pas. La Sainte Vierge parle aussi parfois, ma foi.
D'accord.
Tout est possible avec le Seigneur. Moi je veux bien le croire.
D'accord.
Mais à condition, bien sûr, qu'on prenne toutes les précautions. Pour ne point prendre ça. D'abord, en général, ça ne doit pas être une parole isolée. Ça m'étonnerait qu'il parle à tort et à travers comme ça. Donc, ça s'inscrit dans toute une histoire avec un certain nombre de choses. Tu vois, j'essaye de défendre mes révélations. Mais voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on a des paroles qui sont perçues par un porte-parole. Parce que quand même, c'est bien fait dans le plan divin. Il y a souvent dans la Bible des occasions où il y a des oracles, où il y a des paroles, et il y a des gens qui sont élus, choisis, désignés. Toi, et d'ailleurs vous remarquerez que la plupart du temps ces gens-là n'étaient pas faits pour ça. En général, ils sont bègues, ils sont trop jeunes, ils ont rien qu'il faut pour. C'est jamais le beau porte-parole de l'Élysée, là, qui est bien coiffé, etc. Non, ça va être celui qui parle mal, qui n'est pas très médiatique, etc. Moïse ne savait pas faire, etc. Enfin bon. Jésus, il était plus doué, quand même.
Jésus, oui, mais enfin, en même temps, bon, c'est un artisan donc, qui était sans instruction, oui. Nous dit Jean. Donc, c'est quand même là non plus. C'est quand même...
Il semble qu'il avait quelques dons pour pouvoir faire ça, quand même.
Oui. Mais et Paul, c'était un petit un peu moche, un peu malade, nous dit-il. Donc c'est lui non plus.
Oui.
C'est
pas... Donc en tout cas, il passe par des médiations toutes humaines et qui n'ont rien. C'est jamais Superman. Hein. C'est vraiment des gens comme les autres, plutôt moins bien placés, plutôt moins bien issus. C'est jamais trop les rois d'ailleurs. C'est jamais trop les plus puissants. Marie n'était pas vraiment une princesse, etc. Enfin, c'est jamais parmi les gens les plus importants. On dirait aujourd'hui, c'est jamais les people qui choisissent Dieu pour s'exprimer. C'est plutôt Bernadette Soubirous. Voilà. Hein, c'était.
Plus... Ah, tu reviens.
Je les place. Donc voilà. Et donc nos prophètes, les voilà qui sont choisis un petit peu à travers le temps, mais ils prennent soin de nous préciser que ce n'est pas n'importe quand. C'est-à-dire qu'ils sont quand même dans des situations où il se passe des choses. C'est-à-dire qu'il y a irruption de Dieu dans notre histoire. C'est au moment les plus dramatiques de l'histoire. C'est au moment les plus terribles, ou enfin, au moment les plus importants que Dieu choisit quelqu'un pour intervenir. C'est-à-dire, quelque part, il y a quand même irruption de Dieu dans notre histoire toute humaine, et à des moments pas négligeables. Et dans l'Ancien Testament au moins, mais le cours de l'histoire en est changé. Quand on arrive à comprendre où veut en venir Dieu. Mais malheureusement, naturellement d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, ces porte-paroles finissent rarement sur le podium. Hein. Comme disait Jésus, n'oublions pas qu'ils ont tué tous les prophètes. Tous les vrais prophètes ont été tués. Et les faux l'ont peut-être emporté, mais ce n'étaient pas les bons. Donc, Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides tes prophètes. Il y a une persistance dans le mal et dans l'erreur à ne pas recevoir les bons prophètes. Mais donc, il y a toute cette... Il y avait un doigt qui se... Oh mon Dieu. Non, là nous restons dans le terrain prophétique.
Quoi ? Non, mais moi j'ai rien à en dire. C'est, pour moi, c'est, je comprends même pas ce que ça peut vouloir dire. Donc,
moi non plus.
Je ne peux rien. Je peux pas me prononcer là-dessus. Par contre, au verset 5, ça me semble intéressant, si vous voulez, parce qu'il y a là une parole. Bon, okay, d'abord, c'est extrêmement bien dit. En plus, je trouve que c'est tout à fait profond. Hein. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Hein. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Donc ça, c'est quand même, je trouve que c'est quand même très très beau. C'est une parole qui fait penser un peu à une parole de baptême, finalement, non ? Parce que, bon, je te connaissais. Alors, il y a l'idée de Dieu qui nous forme dans le ventre de la mère. Alors ça, je trouve qu'effectivement, quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais l'existence même de la vie humaine est quelque chose d'absolument prodigieux et incroyable. C'est-à-dire, comment est-ce qu'un tas de molécules qui ne sont finalement que... je dirais, sujet à réactions chimiques relativement simples, peuvent tout d'un coup donner un être capable d'aimer, penser, rêver un avenir, écrire un poème, une cantate ou ces textes de la Bible. C'est quand même prodigieux. Donc cette idée d'un créateur qui nous tisse finalement dans le ventre de notre mère, moi je trouve que c'est quelque chose auquel je suis sensible. Donc oui, il y a déjà cette action de Dieu qui a rendu possible notre être, je crois, avec une lente évolution qui a pris effectivement des milliards d'années, mais il y a quand même là quelque chose de prodigieux qui inspire le respect, quand même, je trouve, pour le moins. Ensuite, je te connaissais, et donc ça c'est même premier, finalement. Hein, ça, c'est quand même premier. C'est-à-dire que déjà... par rapport à ce miracle incroyable de la vie biologique, psychique, avant même ça, il y avait « je te connaissais », donc il y a il y a l'amour finalement là-dedans. Il y a le respect, il y a la prise en compte, il y a le fait que oui, nous sommes dignes d'avoir une place, nous sommes connus avant même notre conception. Et ça, c'est beau finalement, parce que ça rend premier, au-delà même du physique, quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, oui, quelque chose qui est de l'ordre de la grâce, quoi, finalement. Quelque chose qui est de l'ordre d'une prise en compte, d'une reconnaissance, d'un amour, qui est donc complètement inconditionnel, parce que, bon, vous voyez, c'est avant même notre conception.
Oui, et justement, là, on retrouve très directement Paul. On retrouve Paul parce que voilà ce juif extrêmement zélé, qui est d'ailleurs de la même filiation que Jérémie, je vois là du côté de Benjamin. Voilà ce juif extrêmement zélé, extrêmement pieux, qui se trouve par grâce et par intervention, qui se trouve l'un des plus fervents chrétiens, entre guillemets. Et qui, analysant sa situation, se justifie ou revendique cette évolution précisément par le plan divin, en lui-même. Et lorsqu'il s'exprime dans la lettre aux Galates que je vous annonçais tout à l'heure, il dit « Vous avez entendu parler de mon comportement, naguère, dans le judaïsme, avec quelle frénésie je persécutais l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. Je faisais des progrès dans le judaïsme, surpassant la plupart de ceux de mon âge et de ma race par mon zèle débordant pour les traditions de mes pères. » Là, on est dans Galates 1, 14 et 15. Et voici qu'au verset 15, il dit « Mais lorsque celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce a jugé bon de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, loin de recourir à aucun conseil humain ou de monter à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie, puis je suis revenu à Damas. » Voilà que cet homme, précisément, et là on est dans le même discours. D'abord, il y a certainement une stratégie de Paul pour, après avoir démontré son apostolat, montrer en quel point il est lui-même un prophète dans cette même lignée. Mais il y a cette certitude pour tous ces prophètes, pour tous les porte-paroles, que Dieu agit, de toute éternité. Ils ne vont pas jusqu'à là, mais en tout cas, avant même la naissance. Et là, ce sont des thèmes très importants, parce qu'au fond, ça relativise d'une certaine façon la généalogie la plus directe. Et l'on comprend le discours du Christ lorsqu'il dit « Venez et suivez-moi, vous n'avez ni père, vous n'avez plus ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, qui sont mes frères, mes mères ?» pour expliquer que ce sont la fraternité en Dieu et la filiation en Dieu. Ça ne veut pas dire du tout qu'il renie la filiation biologique, la filiation humaine, la paternité, la maternité, etc. Mais pour dire qu'au-delà de cette famille que nous avons tous par naissance, il y a une famille plus importante encore, peut-être plus éternelle aussi, en Dieu Père, en Christ Frère, en frères et sœurs. Mm-hmm. Et donc, il y a l'idée d'être consacré d'une certaine façon, et là on retrouve le thème que l'on a beaucoup développé ce week-end dans les temples et dans les églises, puisque nous étions, nous, à l'appel des disciples, et vous, dans les vocations, j'ai lu ça, je lis Réforme, donc j'ai lu ça, vous étiez dans l'appel aux vocations. Et dans cette vocation, au fond, il y a l'idée que chacun doit trouver sa place. Eh bien, cette place, il semblerait quand même qu'elle soit assignée, et non pas obligée, mais qu'en tout cas, Dieu veuille, dès avant notre naissance, que nous trouvions notre place, que nous soyons d'une certaine façon consacrés à quelque chose, c'est-à-dire que nous ayons notre vocation à quelque chose, à un lieu, à un rôle. Et saint Paul décrira tous ces ministères, au fond, chacun a son charisme. Mais voilà, et voilà que pour le prophète, il est consacré dès avant sa naissance, il est établi, et alors là, grand roulement de tambour, voilà le scandale des scandales au verset 5, un terme qui est éminemment, non pas tautologique, mais presque contradictoire, prophète des nations. Et là, on voit jusqu'à quel point Paul n'est pas le premier, mais bien au contraire, il n'est que le dernier des rejetons de cette lignée des prophètes des nations. Et voilà pourquoi on ne peut pas dire que l'élection d'Israël est exclusive. Les grands prophètes ne l'étaient pas. Et donc, voilà qu'il est établi prophète des nations. On n'a pas idée du scandale que ça peut représenter, parce que le mot « nation » est presque égal, parfois, à celui de Babylone. Les nations, ce sont les païens. Et voilà que cet homme qui est directement désigné par l'Éternel, voilà que cet homme est établi prophète des nations. Une brèche énorme est ouverte, dans laquelle s'engouffreront tous les prophètes jusqu'au Christ, et jusqu'ensuite pour aller aux extrémités du monde.
Ah oui, moi je trouve que c'est intéressant ton idée de mettre ça en parallèle avec qui sont mes frères et mes sœurs, ça veut dire qu'effectivement, d'abord reconnaître dans les autres nos frères et sœurs en Christ, c'est déjà important, même s'ils sont, apparemment très étrangers par rapport à nous. Mais il y a aussi l'idée donc, d'une nouvelle filiation, finalement, qu'on n'est pas simplement descendant d'une lignée biologique, mais qu'on est quelque part enfant de Dieu, c'est-à-dire enfant par... non plus par ce qui est tissé dans le ventre de la mère, mais enfant par cet amour, par cette vocation. Voilà. Et que ça fait de nous des enfants autrement, finalement. Et que, bon, nous n'avons pas forcément le même père et la même mère que Tartampion, mais par contre, nous avons le même père par cet amour qui fait de... cet amour de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs. Nous sommes aussi, voilà, frères et sœurs par une vocation, c'est-à-dire que nos missions sont complémentaires. Alors, il y a un mot qui me semble intéressant, je t'avais consacré. En fait, c'est je t'avais sanctifié. Et cette sanctification, dans la Bible, c'est pas d'abord une qualité morale. C'est pas une qualité morale, c'est une vocation. C'est-à-dire, c'est Dieu qui sanctifie dans la Bible. C'est pas l'homme qui se sanctifie lui-même. C'est-à-dire que ça veut dire, voilà, tu es mis à part, tu es, voilà, connu, reconnu, et, ben voilà, finalement, Dieu dit, je compte sur toi, voilà. Et donc ça, c'est la sanctification, c'est la sanctification. Alors ensuite, effectivement, on est appelé quand même à un progrès, un mouvement, un cheminement pour s'ouvrir à cette vocation de Dieu, à cet appel. Et on va le voir dans ce texte, ça ne va pas tout à fait de soi, parce que, bon, on est trop petit, on est trop jeune, on est trop vieux, on n'est pas assez ceci et trop cela. Donc, je crois qu'on aime bien ces récits de vocation pour ça aussi, c'est qu'on s'y reconnaît furieusement. Mais c'est Dieu qui nous sanctifie. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est quand même bouleversant. Voilà. Nous sommes, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les lettres de Paul. Il s'adresse aux saints qui sont à l'église de Rome. Ils n'étaient pas meilleurs que nous aussi. Ils n'étaient pas pires non plus, à mon avis, mais voilà, ils s'adressent aux tout venants et ils les appellent saints. C'est-à-dire, c'est pour dire, oh là, mais Jérémie, c'est vous aussi, finalement, qui êtes connu, reconnu et sur lequel Dieu compte, finalement. Voilà, donc ça leur dit, mince, mais prophète des nations, moi je suis prophète. Bon, peut-être pas de l'univers galactique entier, si vous voulez, mais quelque part, voilà, je suis prophète et un peuple m'est confié pour que je sois, ben, Dieu m'envoie vers telle personne. Alors, nation, oui, alors bien sûr, c'est universel, ça je crois que c'est fondamental. On a un peu la même idée dans Jonas. Hein. Alors, Jonas, il va jusqu'à... j'allais dire évangéliser Ninive, mais c'est effectivement, c'est comme s'il évangélisait Babylone. C'est quand même les grands ennemis, et donc là aussi, on a quelque chose, d'ailleurs contre lequel Jonas résiste aussi terriblement. Il dit, mais c'est pas possible, c'est vraiment n'importe quoi. Eh bien si. Alors, comme toujours, on peut décliner ces textes bibliques sur différents niveaux de l'être. Ça nous dit d'abord, mais ça, je ne sais pas, j'en ai déjà parlé peut-être, je ne sais plus, je radote peut-être un peu, mais quand Le Pen a fait sa campagne, dernière campagne présidentielle, il a dit, ben moi, je suis désolé, mais c'est normal. Aime ton prochain, j'aime d'abord mon frère, puis ensuite j'aime ceux de mon quartier, de mon village, de ma ville, et puis bon, ben, ceux qui sont à l'autre bout du monde, les Esquimaux, ils passent après, c'est normal. Et les autres hommes politiques se restaient là-devant, bouche bée, disant, mais en fait, c'est pétard de bois, il a peut-être raison. Et ils n'ont rien eu à répondre. Eh bien, à mon avis, si vous voulez, c'est un déficit quand même fondamental de réflexion. Comme quoi, il faut quand même lire la Bible, même quand on a un homme politique, je crois, parce que, si vous voulez, ils auraient vu justement ce que tu disais. C'est que, par définition, dans la Bible, voilà, mon prochain, eh bien, finalement, mon frère, c'est la définition, elle est en Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est Dieu... Par l'amour de Dieu, nous sommes tous prochains les uns des autres, au sens où Dieu l'entend. Et donc ça change quand même tout, si vous voulez. Mon prochain, c'est celui vers qui Dieu va m'envoyer. Voilà. Alors, c'est peut-être pas l'Esquimau, mais il y a quand même quelqu'un qui doit s'occuper de tel Esquimau. Donc, C'est peut-être pas moi, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais peut-être que c'est moi qui dois m'occuper de tel Esquimau, même si c'est pas mon frère de sang, même s'il est loin. Voilà. Donc c'est là que je crois l'esprit est important pour discerner la vocation personnelle. Voilà, que Dieu m'adresse personnellement. Mais en même temps, cette vocation, voilà, on le sait, ça passe par une parole, donc on peut résister contre cette vocation, je crois, quand même.
Alors, lorsqu'on lit ce récit, que tu nommes à juste titre récit de vocation, on se rend compte quand même que dans la Bible, il y a quand même une certaine codification. C'est-à-dire qu'il y a une façon de raconter qui n'est pas neutre. Or, on s'est rendu compte, évidemment, en comparant Moïse, Samuel, Isaïe, Ézéchiel, ou bien encore même Marie chez Luc, ou Paul dans les Actes, qu'il y a une certaine façon de mettre en place les récits de vocation. Et il y a 5 points que l'on retrouve dans tous ces récits. Il y a d'abord, le premier point, une situation difficile. Il faut que la situation soit difficile. Ça ne se passe pas n'importe quand tout va bien. Il n'y a pas vraiment besoin de paroles et de porte-paroles. Donc il y a une situation difficile pour le peuple d'Israël. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans une situation difficile? Il y a l'intervention du Seigneur. Alors, soit qui apparaît dans une vision de ce type-là, ou qui interpelle un individu. Donc c'est localisé. C'est identifié. Ensuite, et c'est aussi une donnée commune à tous ces récits de vocation, il y a les objections de cette personne. Donc, l'intervention du Seigneur rencontre toujours les objections tout à fait humaines. Si le Seigneur vous parlait demain matin et vous demandait de changer le monde, vous lui diriez d'abord que vous avez tendance à avoir mal aux dents et que vous êtes très mal coiffé le matin et que vous n'êtes pas du tout la personne de la situation parce que vous ne parlez pas anglais. Voilà. Donc, il y a des objections. Et puis, naturellement, Dieu est plus fort que nous. Il y a la levée de l'objection et, Dieu étant plus tenace encore, la confirmation de la mission. Voilà ce qui se passe, en tout cas pour ceux qui sont vraiment prophètes, etc. Et enfin, parce que la Bible est presque aussi optimiste que Marc Bernot, il y a en général l'exécution de la mission pour le bien du peuple. C'est-à-dire qu'il est rare que Dieu échoue. Et donc, s'il a choisi quelqu'un pour faire quelque chose, en général il le fait et ça a un résultat. On retrouve tous ces éléments, soit vous pourrez aller voir, j'ai des preuves, dans Exode 3-4 avec Moïse, dans 1 Samuel 3 pour Samuel, dans Isaïe 6 pour Isaïe, dans notre Jérémie 1, dans Ézéchiel, alors là j'ai pas pris la référence, dans Luc 1-26-38 pour Marie, ou encore dans les Actes 9, chapitre 9, pour Paul. Donc, nous sommes bien dans un récit type des genres prophétiques, notamment dans les versets 4 à 11, ce qui veut dire que lorsque nous les suivons pas à pas, nous vérifions bien que nous avons affaire, et n'oublions pas que nous sommes dans le premier chapitre d'un livre tout entier, nous avons affaire à un prophète digne de ce nom.
Alors les objections, effectivement, les objections, là on voit, il dit « Je répondis, Seigneur éternel, Seigneur Yahvé ». Voilà. Alors moi je trouve qu'effectivement, pour un prophète qui va écrire les Lamentations de Jérémie, il est doué, car il commence, la première parole de Jérémie, c'est une lamentation, car « Ah », c'est un cri de détresse, de deuil, de souffrance, donc effectivement, ce petit a de l'avenir dans les Lamentations. Je ne sais pas parler, je suis un enfant, ou en tout cas je ne suis pas formé, bon, je ne sais pas si c'était un enfant, mais en même temps, si vous voulez, je crois que là, il y a objection, en même temps peut-être qu'il y a aussi, je ne sais pas, ça fait un peu religieux de dire ça, mais repentance ou confession des péchés, je ne sais pas, si vous voulez, je crois que dans Marie, voilà, la bassesse, la petitesse de la servante, c'est aussi... C'est ce que dit Jésus, le royaume de Dieu est à ceux qui ressemblent aux enfants, c'est-à-dire ceux qui se reconnaissent petits, insuffisants, Bon, je veux dire, c'est pas pour se rouler dans la boue, mais c'est pour, en même temps, on s'ouvre, quand on dit ça à Dieu, quand on dit ça vers Dieu, on s'ouvre, peut-être pas à la levée de l'objection, mais au supplément d'être, au supplément de force, au supplément, à la création nouvelle que Dieu envoie. C'est presque un défi à Dieu en disant, merci pour ta vocation, mais il faut les munitions qui vont avec, quoi, si je puis dire. Il faut, alors là, ce n'est pas des munitions, c'est une capacité, finalement. Hein. C'est une capacité qui va avec la mission, et je crois qu'on peut vraiment compter là-dessus, mais ce n'est possible que dans cette... on dit qu'on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, mais c'est un peu ça, si vous voulez. Le fanfaron, machin, dit pas vocation, pas de problème, je vais t'emballer ça en 2 minutes. C'est peut-être que ça marche pas. Voilà. Peut-être aussi que, je sais pas, hein, moi, si tu parlais vous parliez du pape, là, je sais pas, si je devais choisir un pape, je choisirais celui qui ne veut pas l'être, quoi, finalement. Parce que celui qui voudrait absolument l'être, c'est sûrement le moins bon des candidats. Mais je dirais pareil pour. Non oui. Je sais pas, hein. Bon, on ne me demande pas mon avis, donc je peux le donner. Mais enfin, bon, je crois que là, il y a ça aussi, si vous voulez. C'est qu'il faut une certaine résistance à ça. Et quelque part, il y a là une preuve aussi qu'on est dans un rapport sain, S-A-I-N, avec Dieu, non, peut-être ?
Oui, et pour reprendre l'exemple que tu viens de prendre, il y a aussi une lucidité nécessaire. C'est-à-dire que on doit reconnaître que l'humilité est nécessaire. Mais comment cela se fait-il, puisque je suis trop jeune, je suis bègue, je suis jamais allé à l'étranger, je ne sais quoi, qui sont des faits réels. Et là, on rentre dans une intimité absolument prodigieuse. C'est que là, il y a de la confiance, il y a l'aveu de la faiblesse qu'on ne dirait pas à n'importe qui. Et il y a une discussion. Et là, on rentre dans les discussions les plus belles qui soient de la Bible. Parce que, regardez, je suis un enfant. Allez, ne dis pas je suis un enfant parce que tu vas aller auprès de Dieu. En gros, ben oui, mais tu oublies que je suis avec toi. Et là, tout le changement est là. Et là, on trouve, en effet, ce dialogue extraordinaire entre l'homme et Dieu. C'est que, tout imparfait que nous sommes, eh ben, nous pouvons relever les défis. Mais pas n'importe quel défi, il ne s'agit pas d'aller faire un saut à l'élastique devant les chaînes de télévision, ce n'est pas du tout ça. C'est une mission qui est confiée, mais qui n'est confiée par le Seigneur que si on a les moyens de le réaliser. Mais ça, on ne le sait même pas, et ça fait d'ailleurs partie de notre capacité à le faire. Les gens qui, en effet, sont sûrs qu'ils vont tout réussir, c'est rarement eux qui réussissent tout. C'est ceux qui savent qu'ils ont des points faibles, etc. Et bien, ils vont s'appuyer sur ce qu'ils ont, et puis le reste, et bien, ils vont s'appliquer. Et puis, si le Seigneur est avec eux, ça devrait passer. Et au fond, c'est sur ces critères-là qu'ils vont aller jusqu'au bout du monde. Et je crois que là, on est vraiment dans cette intimité de la prière, de la discussion, du dialogue. Et au fond, tous les grands récits de missionnaires, de gens qui ont performé, mais au sens vraiment positif du terme, insistent sur cette discussion intime, interne. Et ça commence, regardez, Marie qui dit, mais comment cela peut-il se faire? Je n'ai pas connu d'homme. Et bien, pof, voilà la résolution. C'est-à-dire que voilà, ce qui n'est pas possible à l'homme, à Dieu est possible. Donc il ne va pas miser sur les mauvais chevaux. S'il mise sur quelqu'un, c'est parce qu'il compte aussi aider la personne à réaliser. Autrement dit, il y a quelque chose de confiance. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un prêtre me dire, allons, Dieu ne met pas à l'épreuve pour s'amuser. Il n'est pas là pour nous torturer. Donc si il nous demande quelque chose, il faut lui faire confiance. Si vraiment c'est lui qui nous le demande, eh bien c'est qu'on peut le faire. Et si c'est quelque chose qui nous paraît vraiment impossible, eh bien c'est pas Dieu qui nous le demande. Et je crois que ça participe de cette confiance. Et tous les prophètes sont là pour nous montrer que c'était faisable. Et que Moïse, Isaïe, Jérémie, Paul, avait les capacités, les moyens. Paul ne se gêne pas pour dire qu'il a une capacité intellectuelle supérieure à la moyenne. Hein. Vous avez vu ce qu'il dit ? Il dit aux Galates, je faisais des progrès surpassant la plupart de ceux de mon âge et de ma race par mon zèle débordant pour les traditions de mon père. On dit souvent que ce n'est pas l'humilité qui l'étouffe. Mais je crois qu'en Dieu, il y a une lucidité, il y a une sincérité, il y a une vérité. Et l'humilité, ce n'est pas dire tout le temps, je suis nul, je ne sais rien faire. C'est dire, ça, ce n'est pas mon truc, ça, je crois que je saurais faire. Alors bon, quand on est avec Dieu, je crois qu'il faut reconnaître qu'on n'a pas toutes les capacités. Mais voilà, il y a cette lucidité, il y a ce que l'on appelle le discernement. Et il ne faut pas le confondre avec l'orgueil. Il y a aussi une vérité, voilà, il faut se reconnaître tel que nous sommes. Mais au fond, on a aussi, quelquefois, quelques talents. Et cela, il faut pas. Une parabole nous explique que cela, il ne faut pas les enterrer, il faut les faire fructifier. Condition de ne pas se tromper.
Alors, il y a un petit glissement dans la façon de concevoir Dieu entre le verset 6 et le verset 7. Alors, c'est ténu, donc c'est. Voilà. Donc, au verset 6, il y a Seigneur Yahvé, ah oui. Finalement. Seigneur Yahvé, Seigneur. Vous savez que bon, c'est Adonai, hein, c'est, ça donne quand même l'idée de la seigneurie, d'un roi, c'est un peu lointain quand même un roi. Alors éternel, c'est déjà plus sympathique, c'est le Dieu qui pardonne, le Dieu qui sauve, de la tendresse finalement féminine de Dieu. Au verset 7, alors je ne sais pas pourquoi, il y a le mon Dieu qui est tombé, c'est éternel mon Dieu en fait. Alors c'est pas dans beaucoup de traductions, ils enlèvent mon Dieu, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est bien, bel et bien dans l'hébreu. Et le mot Dieu, si vous voulez, Elohim, quoi, c'est plutôt le Dieu créateur, le Dieu. Et c'est bien dans le registre de création qu'on est. C'était rappelé avant, et on va le voir là, l'idée de se comparer à un enfant, et puis l'action de Dieu qui va lui créer une bouche et des yeux, finalement, dans la suite du texte qu'on va voir à l'instant. L'idée d'un Dieu créateur, et donc... C'est un Dieu en même temps de pardon, mais un pardon qui vient apporter, c'est pas une amnistie, vous voyez, le Seigneur éternel, ça fait penser à un Dieu qui est un roi lointain, qui est puissant et qui pourrait nous couper la tête ou qui pourrait nous faire grâce, nous amnistier. Donc on est dans la repentance, dans la recherche de pardon. Dans le verset 7, Yahvé mon Dieu, on est encore dans le registre de la tendresse de Dieu, mais comme une confiance dans un acte de création. C'est mon Dieu, c'est pas simplement éternel Dieu, c'est éternel mon Dieu, hein, c'est Élie, hein, comme dans Jésus, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est mon Dieu, on pense à Dieu comme un créateur, comme un tendre créateur. Et c'est celui-là qui lui dit, voilà, c'est une promesse en même temps qu'un ordre. Vous savez qu'en hébreu, c'est difficile de faire la distinction entre les deux, puisque quand c'est au futur, comme ça, ça peut être un peu les deux, quoi, hein. Car tu iras, c'est une promesse, finalement, et tu pourras parler, tu pourras y aller, et tu pourras... Ça se passera, finalement, bien, comme je l'espère. Voilà. Alors, cette promesse dont tu parlais, ça, c'est magnifique, ça. Ne les crains pas. « Car je suis avec toi ». Ça, c'est quand même très, très fort. Et cette promesse d'un Dieu qui est avec nous, auprès de nous, même quand on est en exil loin de Jérusalem, même quand on est dans des routes qui se perdent, même quand on est un mauvais, un petit, un nul, eh bien ça, c'est quand même très, très beau. Il y a cette idée, voilà, d'un Dieu qui est auprès de nous, de la proximité de Dieu pour nous... pour être là, quoi. Ça, je trouve que c'est une très très belle promesse, une très belle définition de Dieu, voilà, un très beau nom de Dieu, l'Éternel qui est avec nous. Alors, qu'est-ce que fait Dieu? Il étend sa main, il touche sa bouche, et il me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Alors, il y a là le fait que la main de Dieu soit évoquée ici, c'est un acte de création de Dieu, si vous voulez. Donc il lui crée une bouche. Il lui crée une bouche. Alors, la bouche, ça sert à deux choses. Ça sert à manger, ça sert à parler. Mais là, ça sert aux deux, finalement. C'est-à-dire, cette parole, mes paroles dans ta bouche, c'est pas pour qu'il soit un bête magnétophone, si vous voulez. On le sait. C'est pour qu'il mange cette parole. Dans l'Apocalypse, on le voit dans Ézéchiel, on le voit dans plein d'autres passages. Il faut, j'allais dire dans la communion, il faut bien manger la parole du Christ, ou le Christ-parole, si vous voulez, ça dépend comment on voit les choses, mais c'est bien ça. Il ne s'agit pas de devenir des clones de Jésus-Christ, il s'agit de l'incorporer, qu'il soit... c'est Jean qui parle bien de ça, il faut qu'il fasse sa demeure en nous. Il faut, Jésus qui dit, mais le royaume de Dieu, est-ce qu'il est ceci, cela? Non. Il est au-dedans de vous, au milieu de vous, dans nos relations, l'union fraternelle. Donc c'est bien ça, il faut digérer cette parole, la faire l'incorporer, et puis à ce moment-là, la bouche, elle servira plus seulement à manger, elle viendra à parler, ça sera nos mots, ça sera les paroles de Jérémie, mais qui seront porteuses d'un acte de création de Dieu. Mais ça sera quand même les paroles de Jérémie, c'est pas simplement les paroles de Dieu qu'il va répéter comme un magnétophone stupide. Ça sera... Voilà, cette parole, elle est incorporée, en fait. Il lui crée une bouche pour manger la parole et pour pouvoir oser une parole neuve qui soit parole de Jérémie, et plus seulement parole de Dieu, mais qui ait la puissance, finalement, de salut que Dieu veut.
Alors, si j'ose dire, il joint le geste à la parole. Et dans le verset 10, il explique un petit peu en quoi consiste ce rôle de recevoir la parole de Dieu et de la régurgiter, si j'ose dire, à sa façon. Il l'établit donc sur les nations et sur les royaumes. Je t'établis, lui dit-il, pour que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises. C'est un véritable discours-programme où là, nous sommes totalement dans le thème de la guerre et de la paix. Parce que, heureusement, après ces quatre verbes de destruction, il y a deux verbes de renouveau, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et là, il y a là précisément l'histoire d'Israël telle qu'elle est résumée et souvent, hélas, reprise dans ces récits. Il y a de l'arrachement, il y a de l'abattage, il y a des ruines, il y a de la destruction. Et on pourrait se dire, mais enfin, que fait Dieu pour ce peuple qui se trouve au milieu des ruines et de la désolation? Eh bien, parfois, semblerait indiquer l'Écriture, ce peuple l'a bien mérité. Je dis ça avec beaucoup de pincettes. Mais à la fin de tout ça, je dirais, il y a de la construction, il y a de la plantation, et on retrouve un peu la racine de Jessé. Vous vous souvenez déjà, il y avait de la forêt qui était abattue, les arbres arrachés, et du surgeon des racines repartait le petit bourgeon. Après toutes les tornades que nous connaîtrons, que nous connaissons, eh bien, le printemps va revenir et les petites fleurs ressortir, et ça repartira de nouveau. Et je crois qu'il y a là un peu... Alors, quand on connaît le contexte, précisément, de l'exil, de la déportation, parce que c'est pour de vrai, Jérusalem va être détruite, rasée, le temple brûlé, pillé, incendié. Et donc, voilà. Et là, le peuple va se dire, là, on arrache, on abat, on ruine, on détruit. Mais, comme il y a toujours des prophètes, et comme il y a toujours un petit reste, comme je vous disais tout à l'heure, ce petit reste va repartir. Ce surgeon va pousser. Et de nouveau, on va bâtir. Et de nouveau, on va planter. Et voilà pourquoi des visions viennent indiquer ce qui se passe.
Alors historiquement aussi, donc c'est vrai ces histoires de catastrophes et puis de reconstruction. Bon, pour nos vies aussi, ça peut être parabole aussi pour nos existences. C'est-à-dire que peut-être que Voilà, il faut savoir aussi, démolir, arracher, l'angoisse, la méchanceté qui est en nous, qui est dans nos églises, qui est dans notre société. C'est-à-dire que c'est vrai que volontiers, on aimerait pouvoir avoir des paroles douces, des douceurs, c'est vrai que parfois, et on le voit, Jésus le fait quand il nettoie le temple, finalement, il faut avoir aussi des gestes, des paroles peut-être un peu dures. Alors, je ne crois pas que ça soit un appel à la violence. C'est là qu'il faut faire attention. C'est que quand même, Jérémie, il faut se rappeler que c'est un prophète. Et par conséquent, je ne suis pas sûr qu'il faille le lire au premier degré comme un appel à bombarder Hiroshima. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que, si vous voulez, il faut voir ça quand même sur un fond où tout homme, même si c'est un descendant des mauvais prêtres, est appelé à être Jérémie. Donc, il ne faut pas forcément euthanasier les méchants. Il faut au contraire, mais ça c'est fréquent et c'est toujours dans la Bible, il faut plutôt chercher à éliminer la méchanceté qui est en chacun pour garder le bon qui est en chacun. Donc c'est toujours là quelque chose qu'il faut manier avec effectivement grande pincette et grande précaution pour en faire une lecture où chaque individu, chaque culture, peut-être chaque nation puisse être restaurée, reconstruite, plantée, vivifiée dans le bien. Enfin, je ne sais pas, il me semble, dans l'Évangile.
Alors là, je te trouve un petit peu optimiste, parce que malgré tout, il faut bien reconnaître que ce n'est pas un appel à la destruction, mais je veux dire, nous n'avons pas besoin d'appel de Dieu pour que ça se fasse. Et précisément, je ne dis pas que Dieu dit à Jérémie d'appeler à détruire le temple, mais n'empêche que quelqu'un va le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin. Si on veut trouver de la guerre, si on veut trouver de la désolation et de la destruction, il n'y a pas besoin d'appeler. Il y a toujours quelqu'un sur cette planète qui va s'en occuper. Voilà. On en a plein. Appeler à Ahmadinejad, là, en Iran, aller en Corée, aller un peu partout dans la planète. Il y a toujours des gens qui sauront appliquer le programme de destruction. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'il faudrait qu'il y en ait d'autres, et c'est ce que l'on appelle l'équilibre dans la terreur ou je ne sais quoi, qui précisément empêchent ces destructeurs d'agir. Alors il y a l'ONU, il y a tout ce qu'on veut, et là c'est un peu pareil, et c'est là que vient notre amandier.
Mais est-ce que c'est pas une bonne preuve ce que tu viens de dire, c'est que justement c'est pas Jérémie qui va démolir le temple de Jérusalem?
Ah non.
Donc les paroles, il va prendre acte de ces destructions,
voilà,
etc.
Voilà.
Mais il va être plutôt celui qui dit, finalement, il y a une logique dans cette affaire.
C'est ça.
Et donc un appel à ressurgir.
C'est-à-dire qu'on trouve une raison. D'abord, il y a une explication à toute cette violence, parce qu'on sait d'où elle vient. Elle ne vient pas des animaux ou de la lune, elle vient du cœur de l'homme. Ça, on s'en est rendu compte. Il n'y a pas besoin de prendre des plantes hallucinogènes pour avoir envie de détruire son voisin. On arrive à faire ça très bien tout seul. Et donc, le constat, il est quand même que ça se passe. Et
oui.
Que Nabucodonosor, qui n'est pas plus mauvais qu'un autre, mais en tout cas, il est comme tous les autres. Enfin, il est comme tous les autres. Quand il a de la puissance, quand il a de l'argent et des chevaux, qu'est-ce qu'il fait ?
Il
envahit son voisin.
Oui.
Et au fond, quand on regarde l'histoire de ce continent, mais peut-être de tous les continents, mais en tout cas celui-là, c'est merveilleux. Il y a l'Égypte au sud, il y a les empires au nord, et puis de temps en temps, ça se rencontre au milieu. Mais en tout cas, ils ne cessent, siècle après siècle, de s'envahir les uns les autres. Et alors, quand ça ne vient pas de là, c'est Alexandre qui arrive de son côté grec. Après, c'est l'empereur romain. Mais enfin, bref, je me dis, mais mon Dieu, et alors maintenant, quelle Jordanie ou quel Liban ou je ne sais quoi. Enfin, malheureusement, ça change tout le temps. Mais il y a toujours... Enfin, quand un pays est puissant, sa première bonne idée, c'est d'aller envahir son voisin, quand même.
C'est peut-être pour ça que finalement Israël, je ne veux pas taper sur les collègues, c'est pas du tout sympathique, mais dans un certain sens, je pense qu'Israël manque un peu sa vocation à être prophète pour les nations. Et c'est vrai qu'ils se sont un peu recroquevillés dans leur petite coquille. Alors, bon, effectivement, quand on aura été autant persécuté qu'eux, on pourra leur faire la leçon. Je reconnais que, je dirais, 3000 ans de persécution,
c'est de bonne guerre.
Ça peut calmer, si vous voulez, les ardeurs prophétiques pour aller prophète des nations. Je reconnais. Mais je pense quand même qu'ils ratent un peu leur vocation, là, oui. Ils ont quelque chose à apprendre au monde, à être témoins de l'Éternel pour les nations. Et bon, je crois qu'il faut les encourager aussi, et il faut nous-mêmes pouvoir entendre ce qu'ils ont à dire. Alors, moi, je peux le dire d'autant plus que j'ai un peu honte, pour parler de l'émission religieuse dans laquelle on apparaissait glorieusement, je suis un peu jaloux de celle des Juifs. Franchement, enfin, je trouve ça formidable, hein, c'est super bien fait. Heisenberg et Abbé Cassis, ils lisent la Bible. Ben ça, vraiment, moi, j'en aurais des émissions comme ça religieuses, je dirais chapeau. C'est nourrissant, c'est intelligent, c'est bien fait. Donc, ils ont quelque chose à nous dire aussi, et en particulier sur la base peut-être de ces textes. Alors bon, peut-être qu'il faut avancer donc, sur la branche d'amandier,
voilà, la fameuse branche d'amandier,
et le chaudron bouillonnant. Alors on est quand même content qu'il ait mis la branche d'amandier en premier, ça permet quand même. Alors ce coup-là, bon, dans les verbes, les quatre premiers étaient mauvais, les deux suivants étaient meilleurs. Là, il nous dit, regarde quand même d'abord la branche d'amandier, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose que nous pouvons faire, ne pas voir que tout ce qui est dangereux, mauvais, etc., ouvrir les yeux et savoir regarder et savoir interpréter. Alors cela dit, là, il faut quand même l'aide de Dieu, je crois, parfois.
Alors il faut l'aide de Dieu et il faut l'aide de l'hébreu aussi, parce qu'il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mots qu'il faut repérer. C'est que dans ce verset de la branche d'amandier 11 et 12, en fait, il y a un jeu de mots en hébreu entre shaked, qui est l'amandier, et le veilleur en hébreu, qui est un mot qui est très proche. Et donc, en fait, il y a le mot veilleur qui ressemble étrangement au mot amandier. Donc, l'amandier semble indiquer en effet le printemps, le fleurissement nouveau, hein, ce dont on parlait. Et le Seigneur dit : tu as bien raison de voir une branche d'amandier, car je veille sur ma parole pour qu'elle soit bien exécutée. Autrement dit, la branche d'amandier, c'est le Seigneur, c'est le veilleur. Et donc, j'allais dire, tout cela n'est possible que par l'intervention de Dieu qui veille et qui surveille d'une certaine façon, et qui, quand il trouve qu'on a dépassé les bornes, de temps en temps, rectifie un peu les choses. Quand on en fait un peu trop de mal, il vient nous corriger. Et quand on a envie de faire des choses bien, comme Jérémie, il vient nous aider, nous donner les bonnes paroles et nous soutenir. Donc il y a quand même une vision extrêmement bienveillante de ce veilleur qui veille que la justice, bien que ça n'apparaisse pas toujours dans nos réalités, soit faite. Et là, ça donne envie d'être optimiste et de dire que même si les réalités telles qu'elles nous apparaissent dans la vie quotidienne, il semble parfois que les brigands l'emportent, que les puissants qui oppressent les autres ont l'air heureux, etc. Eh bien, il semble qu'il y ait quand même que tout ça soit un peu sous surveillance. Et j'allais dire que quand même, une certaine justice, en tout cas, aux yeux de Dieu, l'emporte. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Ben, oui, c'est vrai. En même temps, c'est vrai qu'après, si vous voulez, la Première Guerre mondiale et encore plus après la Seconde, il y a quand même eu dans la théologie et la théologie chrétienne une réflexion sur cette question, en se disant, voilà, que fait Dieu face à ces horreurs? Donc la théologie a commencé à prendre une évolution, je crois, assez décisive après la Première Guerre mondiale et puis ensuite après la Deuxième, avec l'idée d'un Dieu qui est un Dieu non tout-puissant, c'est-à-dire qu'on découvre un Dieu qui, justement, qui accompagne, qui pleure, qui appelle, qui est source d'une évolution, source de, voilà, mais pas un Dieu qui soit comme ça, qui manipule, qui, etc. Et je crois que ça, la redécouverte que Dieu n'est pas tout-puissant, ou plutôt que sa toute-puissance, elle se manifeste, elle se réalise à l'horizon final de l'histoire, mais que dans le temps présent, c'est plutôt une puissance douce, de tendresse, de compassion, d'accompagnement. Et je le trouve effectivement bien ici. Hein. Je veille sur ma parole jusqu'à ce qu'elle soit exécutée. Et je retrouve ça dans la parabole de la brebis perdue, qui est sans doute un des passages fondamentaux de l'Évangile. Le berger, il va chercher la brebis jusqu'à ce qu'il la retrouve. Il n'y a pas marqué, il la cherche et il la trouve. Non, il y a ce... Bon, je veux dire, c'est dur. Bon, en définitive, Dieu l'emportera. Dieu retrouvera ses brebis. Donc moi, je suis un assez favorable, je dirais, à ce qu'on appelle le salut universel, l'apocatastase, c'est-à-dire que finalement, la puissance de Dieu, voilà, Dieu a décidé de nous aimer, de nous sauver, il se débrouillera à nous sauver, à nous aimer. Mais cela dit, il y a une question de timing, comme on dit en français. C'est-à-dire que ce n'est pas gagné d'avance. Il veille sur sa parole et finalement... Ben parce que Dieu est puissant, voilà, que Dieu l'a décidé de nous sauver, il se débrouillera bien, mais ça peut prendre du temps, ça peut être difficile, ça peut, voilà, l'agenda n'est pas fixé, il y a un appel, il y a une tendresse de Dieu qui appelle, et puis ça patine un peu dans la semoule parfois, oui. Alors là, il y a l'idée que Dieu est comme une branche d'amandier. Moi j'ai vu dans le Midi de la France, quand j'étais à Nîmes, c'est surréaliste, on est en plein hiver, il n'y a que du bois sec. Et puis tout d'un coup, il y a un de ces machins, ces sortes de trucs tout secs, il y a des fleurs qui poussent, et ben on reconnaît les amandiers. C'est vrai que c'est surréaliste, quoi. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a que des fleurs. C'est surréaliste, et ce sont donc, il y a l'idée, et bien que pour celui qui voit bien, bon, ce n'est pas encore très nourrissant des fleurs d'amandier, bon, mais il y a la promesse d'amande, et donc il y a la promesse, ben, que Dieu est à l'œuvre, et que même si maintenant, voilà, ce n'est pas gagné d'avance, eh bien, il y a la promesse que, ben voilà, dans le futur. Alors, moi, je trouve ça effectivement très touchant, ce Dieu qui est là, qui veille, qui ne nous abandonne pas, qui est le Dieu qui est avec nous. Ça paraît dérisoire, une branche d'amandier par rapport à un chaudron bouillonnant, mais voilà, il y a cette promesse que Dieu veille sur sa parole d'amour, parole de tendresse, parole de vocation, parole de salut, jusqu'à ce qu'elle soit exécutée, quoi. Et donc il y a une confiance en Dieu. Enfin, j'ai conscience que ce que je dis n'est pas fait pour provoquer l'unanimité. Je ne sais pas, hein, ce que vous en pensez, c'est discutable. Et c'est discuté, hein, depuis des millénaires. Mais, bon, moi j'y verrais volontiers une confiance, encore le radical optimiste qui parle peut-être. Mais...
Oui, d'autant que dans les visions... il ne voit pas que la branche d'amandier. Il voit aussi le chaudron bouillonnant. Et quand même, c'est ce qui apparaît le plus souvent. Hein. On les voit, nous aussi, nos chaudrons bouillonnants, alors qui viennent toujours du nord. Et donc, il y a une explication quand même. Le prophète nous explique un peu... à travers son dialogue avec Dieu, qui lui explique au fond de quoi il s'agit lorsqu'il voit, comprend un peu toutes les choses ne sont pas absurdes. On n'est pas dans de l'absurdité, il y a quand même une rétribution. Alors, tout à l'heure tu me corrigeais et tu avais bien raison sur la toute-puissance de Dieu, mais là je suis au temps de Jérémie et je suis dans l'Ancien Testament. Donc quand même, je vois bien que il y a des idées quand même que, par exemple, là, le chaudron boue parce qu'ils m'ont abandonné, dit le Seigneur, qu'ils ont offert de l'encens à d'autres dieux. Alors là, tous les polythéismes, toutes les autres. Et, entre parenthèses, lorsqu'on va à Jérusalem, c'est très intéressant, je relisais Jérémie cet après-midi, et je me rendais compte qu'en fait, il y avait des tas de prédictions de Jérémie lorsqu'il va casser sa cruche. Il va la casser au pied des murailles de Jérusalem pour montrer que, mais une fois qu'elle est cassée, la cruche du potier, ben, allez la recoller. Il faut c'est vraiment cassé. Et donc il annonce du côté du champ du potier justement, et ça a été repris par notre ami Mathieu pour nous parler de Judas, dans la vallée du Ben Hinnom, c'est-à-dire au pied de Jérusalem, dans, non pas la vallée du Cédron, mais de l'autre côté, à Keldama. Et d'ailleurs, après, il va acheter un champ. Enfin bon, bref, on retrouve beaucoup de choses qu'on comprend dans la Passion même. Autrement dit, tout ceci n'arrive pas par hasard. C'est parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert de l'encens à d'autres dieux, ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains, et les accusations iront plus loin, parce qu'ils ont même sacrifié leurs enfants à Baal et autres dieux du côté de Babylone. Autrement dit, il y a des trahisons. Il y a un peuple qui a trahi le Seigneur, qui l'a oublié, qui, faute d'avoir confiance en lui, a préféré s'en remettre à des tas d'autres divinités, et quelque part, eh bien, tout va être rétabli, et les murailles vont s'effondrer, tout va être détruit, et on va reconstruire à partir de cette colonne de fer, à partir de ce mur d'airain, à partir du prophète et du petit reste. Mais en tout cas, il y a quand même une confrontation, il y a presque une bataille entre le Seigneur et ses ennemis. Et j'ai envie de dire presque entre le Seigneur et les esprits du mal. Il y a un combat. Et j'allais dire, à un moment, il faut choisir son camp quand même. Hein. Et si on est dans le camp du mal, eh ben, on risque de s'en prendre une.
Moi, je vois pas ça comme une punition de Dieu, mais au contraire comme une conséquence. Et un appel, justement, à ce que nos actes, y compris contre les chaudrons bouillonnants, ce soit des actes finalement qui soient de l'ordre peut-être de la théologie, peut-être de l'adoration, peut-être de la philosophie aussi, savoir remettre les choses en perspective, car les causes profondes finalement, ils voient au-delà du chaudron bouillonnant pour voir les causes qui sont en fait des causes spirituelles, des causes existentielles qui sont derrière ces dysfonctionnements, je dirais, en actes. Des ennemis et à l'intérieur même d'Israël. J'y vois pas là une punition de Dieu, mais au contraire, je vois le Dieu qui appelle à un travail intérieur, à un combat, oui, comme tu disais, un combat spirituel, un combat intérieur, et qu'il faut vraiment purifier. Parce que là, la méchanceté, c'est pas d'abord une méchanceté en acte. Hein, à cause de toute leur méchanceté, on attend, bon, comme dans d'autres passages, ils ont opprimé leurs frères, ils ont... Non. Leur méchanceté, c'est d'abord un problème spirituel, existentiel. Hein? Ils m'ont abandonné, ils ont offert l'encens à d'autres dieux. Alors on pourrait y voir là, je crois, vouloir vraiment baser son espérance, baser son adoration à d'autres puissances que le créateur de l'univers, c'est-à-dire à l'argent, au pouvoir, à ses loisirs, au voyage, je sais pas, à la distraction, comme dirait Pascal. Donc je crois qu'il y a un appel là, oui, à se recentrer pour une adoration vers Dieu. Voilà. Et aussi, on le voit dans ce que propose le verset 18, il ne s'agit pas là non plus de bâtir des murailles plus hautes pour résister contre l'envahisseur, ou il ne s'agit pas de monter une armée deux fois plus puissante que celle de l'envahisseur. Il s'agit de construire des murailles spirituelles intérieures, vous voyez ? Je t'établis, toi le petit Jérémie, qui est si nul que ça, semblait-il ? Ben non, je t'établis, toi, comme une ville forte, avec des murailles d'airain. Aucune ville au monde n'avait des murailles en bronze, c'est impossible. Il y aura peut-être une porte en bronze au miracle, ou en, je sais pas quoi, en bois plaqué de bronze peut-être.
Pour le jubilé.
Voilà, pour le jubilé. Mais donc, c'est lui la colonne d'airain, si vous voulez. Donc c'est une colonne, je crois, intérieure. Et je crois qu'effectivement, notre monde aujourd'hui, le déficit spirituel dans une ville comme Paris peut-être, ou comme un pays comme la France, ou comme, je dirais l'Occident, oui, c'est d'abord, avant tout, un problème spirituel. Il faut quand même, à mon avis, qu'il y ait, voilà, un peu plus de gens quand même qui soient dans une préoccupation spirituelle, intérieure, une fidélité à Dieu.
Oui. Et là, on en arrive en effet à la conclusion de de ce verset 19, « Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel », il y a là cet exode intérieur, c'est-à-dire cette marche que nous avons. Et on s'approche du carême, et je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder, c'est justement ce voyage intérieur que nous avons régulièrement à faire. Et le Seigneur est là pour nous délivrer, c'est-à-dire pour nous conduire, pour nous ouvrir la mer des roseaux, pour effectivement, et l'image de Dieu que nous avons là n'est pas une image de Dieu vengeur ou de Dieu jaloux ou de je ne sais quoi, mais effectivement de cette main tendue à l'homme pour trouver son chemin intérieur et pour trouver la délivrance au sein de ses propres tourments. Et en effet, là, on a bien tout un combat spirituel dont Jérémie se fait le porte-parole, qui peut avoir... Moi, je crois quand même qu'on peut garder une image extérieure, parce qu'il y a quand même
oui,
des...
Oui, non, mais tout à fait. Oui,
mais qu'en effet, et je crois que c'est le retournement... Oui, c'est le retournement de tous ces prophètes qui disent, au fond, c'est le cœur. Ce que je vous demande, ce n'est pas des sacrifices, ce n'est pas d'aller faire un culte extérieur et de brûler je ne sais combien de taureaux et de je ne sais quoi. C'est votre cœur qu'il faut convertir. Mmh. Autrement dit, encore une fois, face aux tourments extérieurs, etc., qu'on peut analyser d'une certaine façon, comme, pas une punition, mais en tout cas comme quelque chose qui prouve qu'on n'est pas tout puissant, et de se dire, au fond, le combat à mener, il est d'abord en moi-même, il est au milieu de ma désunion personnelle, de mes déchirures, et là le Seigneur ouvre un chemin qui est un chemin de délivrance, de libération. Et je crois que tous les spécialistes de la chose psychique, psychologique, etc., vous diront que bien souvent les divisions et les querelles sont des nœuds extrêmement compliqués. Et là, le Seigneur est là pour nous tendre la main et nous sortir de nos propres prisons.
Mais ce recentrage sur le spirituel, c'est pas un mépris, je crois, de celui qui a froid et qui souffre à la porte, si vous voulez. C'est pas pour dire le corps n'a pas d'importance, l'injustice sociale n'a pas d'importance, soyons tout le temps en prière. Non, mais c'est peut-être chercher dans le spirituel, dans la réflexion, dans la prière, des verrous qui vont être des libérations qui vont nous permettre d'avoir l'acte juste dans le monde, d'avoir savoir faire la paix juste qui ne sera pas source d'une nouvelle guerre, savoir faire le développement juste qui va être source de régulation. Voilà, donc je crois que c'est plutôt cette recherche-là de solutions, mais de solutions aussi pour notre monde concret, pour que les chaudrons bouillonnants n'explosent pas à la figure... je dirais peut-être de notre civilisation et de notre planète.
Absolument.
Enfin bon, je crois qu'on a dépassé le temps. Alors, parti, donc je suis hyper désolé.
J'allais dire que du coup, dans ce combat qui n'est jamais terminé, nous prendrons une nouvelle revanche, j'allais dire, avec les armes de Dieu, carrément, hein, on va oser. Là, vous reconnaissez le vocabulaire de Paul, un vocabulaire assez martial. Nous nous retrouvons mercredi 10 mars, dans un mois pile, à l'Oratoire du Louvre. Et là, nous aurons lu tous ensemble, avant de nous retrouver, l'Épître aux Éphésiens. Nous prendrons le chapitre 6 et nous irons voir un peu quelles sont les armes dans ce combat spirituel.
Bon. Merci, bon retour, bonne soirée. Malgré le froid.